Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork La Radio.
Et bonjour, bienvenue sur Cowork La Radio. Bienvenue dans Objectif Startup, l'émission consacrée aux startups. Chaque semaine, je reçois un fondateur, un collaborateur qui nous présente sa startup. Comment est né le projet, quels sont les obstacles, quelles sont leurs motivations. Aujourd'hui, je reçois Francesco Papa, chargé du développement en France de Vialytix. D'ailleurs, très très beau pull au passage.
Comment ça va?
Bah, super.
Ça va? Alors, Vialytix. Présentez-nous déjà cette start-up. Donc, c'est une start-up allemande à la base. Qu'est-ce qu'elle fait ?
C'est ça. Alors, elle a été créée en 2017. Ouais. C'est une start-up allemande qui s'est bien développée sur son territoire allemand.
Ouais.
Et ensuite, qui est vraiment en phase d'expansion. Donc, c'est là où la start-up est en phase de choisir des nouveaux territoires pour se développer. La France a été sélectionnée comme un territoire potentiel. Et nous, on s'ancre dans le secteur des smart cities.
D'accord. C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes les technologies qui s'insèrent dans les villes
ouais.
et qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie dans les villes. Nous, on travaille sur une solution qui est assez niche, c'est dans la mobilité et c'est dans l'entretien des infrastructures routières. Donc ce qu'on propose, c'est un diagnostic automatisé avec une intelligence artificielle qui va se mettre sur un téléphone et qui va analyser la voirie automobiliste.
C'est vrai qu'on en a besoin en France. Il y a un gros problème sur les routes françaises, l'état des routes, des ponts aussi, mais particulièrement des routes. Alors, elle est née en Allemagne. Qui sont les fondateurs à la base de cette start-up ?
Alors, il y a trois fondateurs à la tête de la start-up. Donc, ils ont tous un profil assez différent, ce qui est très intéressant. Donc, il y en a un qui est vraiment basé sur la tech, donc le développement du produit tech. Un qui est expert financier et vente. Et un autre qui est vraiment issu de l'ingénierie routière. Donc, il connaît vraiment l'expérience des routes, comment fonctionnent les interventions routières, etc. Et moi, bon, qui ai le profil qui dirige l'équipe française, mon profil est plus dans les smart cities et le marché public.
D'accord. Alors, comment vous avez été contacté par ces fondateurs ? Comment ça s'est passé ?
Alors, la petite histoire, c'est que avant, j'étais consultant en smart city pour l'Union européenne.
Ouais.
Et en cette position, on aidait aussi beaucoup de startups à se positionner sur d'autres marchés. On a aidé Vialytix il y a quelques années. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Et depuis, donc, on les a aidés à s'insérer sur le marché anglais. Et depuis, bah, ils cherchaient une opportunité du coup, pour développer le France. Et moi, je voulais rentrer au pays. Et voilà.
Et vous avez sauté sur l'occasion.
J'ai sauté sur l'occasion, surtout avec le Brexit et à la fois le Covid qui arrivait. C'était la bonne transition.
Et alors, comment ces fondateurs ont eu l'idée ? Comment ça s'est passé, en fait ? Ils se connaissaient avant en Allemagne, comment sont les routes ? On ne connaît pas bien les...
Alors, bon, déjà, la qualité des routes, généralement, dans le monde, mais en Europe aussi, est vraiment en décroissance, parce que surtout, les infrastructures routières ont été construites après-guerre. Donc là, on arrive vraiment à la fin du cycle. Les fondateurs, alors eux, ils ne se connaissaient pas avant. Ils se sont rencontrés dans une compétition de start-up basique, mais en Allemagne. Hein. Et c'est là qu'ils se sont, concentrés sur un projet. Au début, c'était sur les voitures autonomes. Et en peaufinant un peu le projet, ils se sont rendus compte qu'en fait, les voitures autonomes, ce n'est pas avant 10-15 ans.
Ouais.
Ils font un truc qui a un besoin maintenant, qui marche tout de suite, et ils se sont basés là-dessus.
Alors, comment ça fonctionne exactement ? Ça se met à l'arrière d'un véhicule ? Comment ça marche ?
Alors, c'est tout simplement un smartphone. Donc, comme
donc
un téléphone.
Donc, les spécialistes téléchargent une application, c'est quoi ?
Alors, non, on fournit un kit. Donc, on fournit un kit qui est avec un téléphone qu'on met sur un pare-brise. Et ensuite, une fois, si vous voulez, l'application installée, quand on circule sur une voirie, elle prend automatiquement des photos.
Et le kit, ça permet d'accrocher le téléphone, c'est ça ?
C'est ça, c'est juste un kit très simple, comme un GPS qu'on met sur un pare-brise et qui s'installe. Et ensuite, on lance l'application, automatiquement, ça prend des photos.
Ouais.
Et les agents du terrain n'ont plus rien à faire. Ils circulent sur la voie.
D'accord. Et alors, vous le vendez à qui, en fait, ce kit ?
Alors, c'est un produit, pour l'instant... Le marché, je pense, qui est encore à explorer. Nos clients principaux, c'est des collectivités. Parce qu'aujourd'hui, en France et en Europe d'ailleurs, majoritairement, les voiries sont détenues par les villes. En France, c'est à peu près 70%.
Ouais.
Donc du coup, ils sont compétents de leur ville, de l'entretien.
C'est à eux de faire l'entretien.
Et c'est à eux de l'en faire l'entretien. Donc du coup, nous, on propose un outil pour les aider.
Ouais.
Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se tourne de plus en plus sur des autorités publiques à plus grande échelle, comme les départements ou même les autoroutes.
Et comme client, vous avez qui là, par exemple ?
Alors en France, bon, on vient d'arriver, on est vraiment au début du développement, mais c'est vrai qu'on voit quand même une forte appétence. Par exemple, récemment, on a signé avec La Rochelle, avec GPSO qui est Grand Paris de Seine-Ouest, donc dans la périphérie à Paris. On a aussi une petite ville balnéaire qui s'appelle Bidart dans le sud-ouest de la France. Mm-hmm. Donc on a une variété de clients et c'est vrai que on sent aussi, avec beaucoup d'échanges de prospects qu'on a eu, beaucoup d'appétence pour ce genre de produit.
Alors aujourd'hui en France, donc vous êtes le chargé du développement de Vialytix. Il y a combien de collaborateurs français ?
Alors aujourd'hui, on est une petite équipe, on est 5,
ouais.
Face à l'équipe allemande qui sont déjà 35 et déjà structurée en département.
D'accord. Et c'est vous qui êtes en charge du recrutement, du coup ?
C'est ça. Alors, l'idée, c'est de, voilà, en fonction de la vitesse dont on se développe, de, effectivement, penser à recruter des personnes pour, voilà, assouvir des nouvelles positions pour nous aider dans le développement.
Et c'est vous qui avez carte blanche ou c'est l'Allemagne, quand même, qui est encore très présente et qui vous dit, voilà, il faudra embaucher telle personne ? Est-ce que vous leur faites, vous leur faites aussi des comptes rendus régulièrement, j'imagine ? Comment ça se passe ?
Vous savez, ça reste une start-up, dans le sens où on est assez flexible là-dessus. C'est vrai que ça repose beaucoup sur la confiance. Je dois dire que je suis très reconnaissant, en tout cas, des équipes allemandes qui ont mis beaucoup de confiance sur nous pour vraiment développer la boîte, avoir un peu la carte blanche quand recruter. Et aussi sur le développement commercial et stratégique. Après, forcément, ils ont aussi, comme il n'y en a aucun qui est français de la partie allemande, ils ont très peu de connaissances du marché et même de la structure financière, légale, etc. Donc, ils reposent beaucoup sur nous pour comprendre comment intervenir et se développer rapidement.
Donc, en fait, vous êtes un peu polyvalent en France. Vous démarchez les clients, vous occupez du business plan un peu de la start-up, des recrutements, c'est un peu vous qui faites tout.
L'idée, oui, c'est de manière quand on rejoint un rôle en start-up, c'est inévitable. Ouais. On va toucher un peu à tout, sur tous les fronts. Et plus particulièrement sur une start-up qui vise des marchés publics, ce qui est important, c'est aussi de se crédibiliser assez vite. Et surtout de ne pas faire de la vente de comptoir, parce que souvent, le marché public, une fois qu'on envoie une mauvaise balle, on ne peut plus faire de vente. Enfin, il faut vraiment comprendre le marché, comprendre là où on atterrit, se lier des relations avec peut-être des partenaires qui sont importants pour nous. Donc ça, c'est aussi un volet où j'y travaille beaucoup, à la fois sur le volet commercial, qui est la prospection, et aussi tout le volet de recrutement, de développement, de trouver les équipes, de former les personnes, et de prendre en même temps l'expérience, la leçon allemande, ouais, et de la calquer
bien
en France.
Sûr. Et aujourd'hui, vos clients, c'est 100% dû à la prospection, ou il y en a qui sont venus à vous, qui ont entendu parler de vous
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que la méthode, on va dire...
Parce qu'il y a une demande quand même en France.
Il y a une demande en France. Et c'est vrai que, on va dire, la méthode classique, c'est vraiment du cold call. C'est-à-dire qu'on va appeler à froid une mairie, mm-hmm, et ensuite on va explorer, on va dénicher s'il y a un besoin. Mais c'est vrai qu'étant, avec mon expérience de consultant sur l'Union européenne et sur des marchés européens où j'ai pu rencontrer pas mal de collectivités, c'est vrai que ça m'a aidé aussi. J'ai pu, me positionner sur quelques contacts que j'avais avant.
D'accord.
Pour démarrer. La Rochelle, ça fait partie d'un de ces contacts.
C'est des contacts dans la politique,
dans les smart cities, donc vraiment dans les projets en smart city qui étaient plus sur des problématiques, on va dire, plus larges que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça m'a aidé, en fait, à avoir
forcément
la bonne personne.
Bien sûr, ouais. Ça aide toujours. Et comment ça s'est passé, la crise de la Covid, le confinement, les différents confinements, le premier, deuxième, troisième? Bon, le troisième, c'était moins un confinement, mais comment ça s'est passé?
Je pense qu'il y a eu un impact, à la fois sur la demande, mais aussi sur notre start-up, c'est sûr. Après, nous, on a fait deux levées de fonds en Allemagne, donc on est sur une position assez sécuritaire dans le sens où on sait qu'on peut quand même se permettre de peut-être avoir un impact et de ne pas faire trop de ventes. Mais c'est vrai qu'en France, malgré en fait l'impact économique, la voirie reste toujours un sujet important. Si on regarde d'ailleurs sur les dépenses des collectivités, les infrastructures routières représentent toujours une grosse dépense.
Même pendant cette crise, c'était pas un sujet, c'était pas leur première préoccupation.
C'était pas leur première préoccupation, mais comme il y avait moins de trafic sur les routes, c'est vrai que de faire des entretiens, des interventions routières, c'était un peu le bon moment. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic urbain, un peu moins d'activité. Et du coup, ils en ont profité pour refaire des projets qu'ils n'ont pas forcément fait l'an dernier, etc.
Et comment ça se passe quand vous vendez quoi, un forfait sur combien de temps, en fait? Ça dure combien de temps pour une petite ville comme La Rochelle, pour qu'ils fassent le tour de toutes les routes?
Alors, l'idée, c'est qu'on est sur une réflexion d'abonnement. Donc, on va proposer un service auquel on s'abonne. Et le service n'est pas seulement un système qu'on pose sur un véhicule, c'est aussi un accès à une plateforme qui permet d'exploiter les résultats qui sont recueillis sur le terrain. Donc pour l'instant, on essaie de faire vraiment sur un système d'abonnement parce que c'est vrai que si ça permet d'être flexible par rapport à un client qui aujourd'hui a vraiment besoin de cet outil et peut-être demain il veut s'en passer. Donc du coup, on est vraiment sur une offre flexible pour s'adapter à tout type de client. Et après, au niveau des offres, on segmente souvent notre offre en fonction de vraiment le besoin routier qu'a une collectivité. Donc, par exemple, pour La Rochelle, on a à la fois une offre de recueillement terrain, on a aussi un bouton, par exemple, pour mettre sur le volant pour faire d'autres choses. Et donc, par exemple, La Rochelle a été intéressée par à peu près tout.
Mais c'est quoi ce package. Bouton pour faire d'autres choses ?
Alors, c'est un bouton qu'on met sur le volant,
ouais.
Qui est pour en fait signaler des problèmes de sécurité routière.
D'accord.
Donc, par exemple, je sais
un
pas,
nid de poule.
Un nid de poule, mais aussi, par exemple, des choses qui ne sont pas forcément de la chaussée. Un arbre qui tombe sur la route.
Ah oui.
Ou, je ne sais pas, un panneau qui est tagué.
Ouais.
C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans beaucoup de collectivités. Et ça permet, en fait, juste de signaler des problèmes qui sont tout autres,
ouais.
Mais de les avoir quand même repérés, géolocalisés et sur une plateforme.
D'accord. Et après, donc la mairie, la municipalité intervient combien de temps après en général ? Il y a un rapport après qui est établi, j'imagine ?
Alors nous, pour l'instant, on n'est pas encore sur cette idée de rapport parce qu'on n'aime pas se positionner en tant que conseiller parce que pour nous, les meilleurs, on va dire, connaisseurs des routes, c'est les villes. C'est les villes qui sont compétentes de leurs routes. Donc l'idée, c'est plus de fournir un outil au service des utilisateurs.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est une approche importante parce que dans le monde des smart cities, souvent, on a affaire à beaucoup de gadgets qui, en fait, veulent contrôler un peu la data, les données pour les villes, au lieu que ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'un outil qui est au service des utilisateurs.
D'accord. Vous, alors, on va revenir sur votre parcours. Vous avez rejoint cette année, je crois, en janvier Vialytix, c'est ça ?
C'est bien ça.
Donc avant, vous étiez consultant. Racontez-nous un peu votre parcours, en fait. Comment avoir eu envie de rejoindre une start-up ? Pourquoi l'univers des start-up vous a-t-il intéressé ?
Alors, je pense qu'avant l'univers des start-up, c'était vraiment sur le secteur des smart cities qui m'a intéressé parce que donc, j'ai fait mes études en Angleterre. De là, j'ai fait un dernier master qui se basait sur l'environnement et le business. Et en fait, je me suis rendu compte que si on veut vraiment avoir un impact positif sur le monde, en question de l'environnement, la majorité des responsables, c'est les villes.
C'était important d'avoir un impact sur le monde ?
Disons qu'on est, on est évidemment dans une crise écologique qui va continuer plus les années viennent. Et c'est vrai que si on peut déjà se positionner là-dessus dès le début quand on est jeune, je pense que c'est... peut-être une plus-value pour plus tard, je ne sais pas.
Oui.
Mais en tout cas, c'est sûr que le marché des villes était un marché potentiel, parce que c'était la majorité responsable pour les émissions de carbone. Et du coup, le monde de start-up est forcément un monde qui m'attire énormément, parce qu'il y a beaucoup de polyvalence dans tous les métiers qu'on peut être proposé sur une start-up. On touche un peu à tout, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Au final, je touche à plein de thématiques, à la fois marketing, recrutement, développement.
C'est cette polyvalence en fait qui vous a attiré.
Ça m'a attiré et ça forme beaucoup. Je pense que c'est très formateur aujourd'hui. J'en apprends tous les jours et c'est formateur pour, je pense, pour le futur.
D'accord. Et justement, alors vous êtes salarié actuellement. Est-ce que vous avez envie de créer votre start-up ? Peut-être après ?
Peut-être après. Je pense que là, l'idée dans ma tête, c'est plus en tant que salarié, d'apprendre et de faire une expérience d'une boîte qui est devenue rentable. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et ensuite, effectivement, plus les années viennent, ce serait de peut-être créer ma propre entité, toujours dans le secteur des Smart City,
ouais.
Pour un besoin qui serait futur. Mais on est dans un marché qui change tous les jours,
surtout
les Smart City. Et donc, en tout cas, je ne me fais pas de souci qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles innovations qui vont arriver. Et qui vont se positionner sur le marché.
Après, vous parlez d'une start-up rentable, de rentabilité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de start-up qui ne réussissent pas, comme Vialytix. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur quand vous avez rejoint Vialytix, justement ?
Alors, pas forcément, parce que, ayant travaillé avec eux un peu avant, j'avais eu le temps de faire un peu mon avis sur la question. Et c'est vrai qu'ils ont une solution qui est quand même, en fait, très pragmatique. C'est-à-dire que, très facilement, toute personne arrive à comprendre ce qu'on fait. Et il y a quand même, une fois qu'on fait une prestation, il y a quand même un énorme profit qui est fait pour nous. C'est-à-dire que comme on est une solution en software, c'est quasiment 70%, 90% de profit sur une prestation vendue. Parce qu'une fois que le software est établi, ensuite, voilà, il faut juste payer effectivement les revenus et les coûts de la boîte, mais qui sont pas, c'est pas des matières premières.
Oui, bien sûr.
Donc il y a quand même un business model qui est intéressant. Après, c'est vrai que le marché public n'est pas un secteur facile, parce que c'est un secteur qui prend du temps.
Bien sûr.
Voilà, il faut connaître on va dire les rouages du marché. Mais c'est passionnant, et comme c'est des valeurs qui sont basées sur l'impact, de plus en plus on va avoir voilà, des investisseurs, des politiciens qui vont favoriser ce genre d'approche et de technologie pour les villes.
Et vous misez sur les présidentielles, un petit peu, ou pas? Pas du tout.
Pas vraiment, je pense pas que ça
Est-ce
va
que
changer.
Ça va freiner au contraire, peut-être, ou non?
Je pense pas que ça a un vrai impact. Après, forcément, ça dépend des idées qui sont aussi portées par le nouveau président. Mais l'infrastructure routière, c'est ça qui est beau. C'est comme c'est une niche, ce qu'on fait. Une niche reste toujours une niche dans sa valeur. Après, forcément, il y a peut-être à avoir des petits rebondissements. Mais nous, ce qui est important, c'est pas forcément les présidentielles, c'est plus le maire.
Bien sûr, le maire et ses opinions
politiques. Et effectivement, ça joue en fonction de ce qui est promu.
Et là, aux dernières municipales, il y a eu beaucoup de maires écolos. Comment réagissent les écolos avec votre projet?
Plutôt bien, parce que là, on est sur... d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné au début, mais là, on est en train de faire un prototype pour faire la même chose qu'on fait, mais sur les vélos.
D'accord.
Donc, de réaliser en fait un diagnostic sur des voies cyclables, des voies
piétonnes.
C'est
vous qui avez eu l'idée ou on vous l'a demandé
Alors, c'est une idée qui a été une idée de groupe. Ouais. Je dirais, avec la start-up. Mais c'est vrai qu'en France, on pousse à fond ce développement parce que c'est inévitable que la mobilité douce est maintenant une réalité.
Bah, les grandes villes s'y mettent. On voit à Paris...
Les grandes villes, mais aussi, je dirais, les villes intermédiaires et petites villes. C'est déjà, ils sont déjà envahis par ce genre de véhicules. Et c'est vrai que faire un diagnostic à vélo, c'est écolo, c'est une opération zéro carbone. Ça attire beaucoup de villes, et notamment Paris-Saclay, qui nous supporte beaucoup là-dessus.
D'accord. Et du coup, alors les prochaines étapes là, du développement dans les mois à venir, comment ça va se passer? Sur quoi vous misez? Est-ce que vous allez recruter? Est-ce que Vialytics va s'agrandir? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors l'idée, c'est effectivement d'y aller étape par étape.
Ouais.
Donc en fonction du développement, on va dire, commercial de l'entreprise, c'est là où on se pose la question de recruter plus. Normalement, on devrait avoir deux nouvelles personnes qui nous rejoindraient cet été.
D'accord.
Qui vont nous rejoindre.
Donc vous serez 7 en tout en France.
En France, ce serait l'idée. Et ensuite, à partir de l'année prochaine, ce serait vraiment de recruter des salariés en CDI. Donc avec
Parce que là, vos collaborateurs, c'est quoi? C'est des stagiaires?
Alors là, on a une personne employée en CDI, et on a aussi trois autres stagiaires.
D'accord. Des stages de fin d'études. Okay.
Donc on parle vraiment de stages.
Quel type de profil? C'est des écoles de commerce?
C'est plutôt des écoles de commerce. Donc par exemple, on a EM Lyon, SCP. Ouais. C'est pas forcément des profils sur les problématiques urbaines, mais des profils de personnes qui connaissent
intéressées par
les smart cities, qui veulent monter une affaire, etc.
Eux ont l'intention de devenir entrepreneurs, ça leur plaît.
Nous, c'est une des conditions pour recruter quelqu'un, c'est un profil entrepreneur.
D'accord.
Parce que c'est vrai qu'on est quand on est au tout début d'un développement, il faut qu'une personne soit, à l'aise.
Autonome,
pour faire de la polyvalence.
Et ça, comment vous le voyez, ça, l'esprit entrepreneur de quelqu'un? Parce qu'il y a des personnes qui sont nées avec ça, il y en a d'autres, c'est pas possible.
Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est inné, mais en tout cas, c'est vraiment, sur la force de parole et à la fois l'action. Parce que moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on aime bien parler, souvent même moi, j'aime bien beaucoup dire des choses, mais au final, c'est l'action qui compte. Et c'est un peu ça, la vision entrepreneur que j'ai, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas avoir peur de se mouiller la chemise, d'aller sur le terrain, d'essayer. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on s'ajuste. Et c'est un peu l'idée, c'est pas forcément d'avoir un candidat qui est compétent partout, c'est plus de quelqu'un qui a pas peur d'essayer, de faire des erreurs, et du coup de quand
plus
même...
Plus dans le tempérament en fait, que dans le savoir par exemple.
Plus dans le tempérament que le savoir, effectivement.
Quelqu'un qui est téméraire, qui y va, qui se pose pas de questions,
exactement.
Qui fonce,
d'accord. Qui a de la bonne volonté et qui sait qu'il peut apprendre sur le long terme.
Vous êtes déjà trompé dans des recrutements ou pas?
Alors, je pense que j'ai peut-être pas assez de recul pour cette question, parce que
on verra dans les mois à venir.
Mais le recrutement, c'est pas un sujet facile. ouais. je pense.
Surtout J'imagine, surtout quand on est dans une petite équipe comme ça, en fait, parce que chaque personne est très importante.
Chaque personne est très importante, et c'est vrai que l'univers des smart cities et des marchés publics, c'est pas non plus le, on va dire, une grosse majorité de ce qu'on a sur le marché quand des personnes cherchent un nouveau boulot. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie quand même de coaching et de formation. Et après, en même temps, c'est pas facile parce que effectivement, il faut qu'on est dans un monde de start-up où on sait très bien que peut-être dans 3 mois, on n'est plus là. Et il faut motiver les personnes. Alors moi, ça me fait pas trop peur parce que, disons que j'étais indépendant pendant 3 ans. Donc, je vis en fait.
Vous savez rebondir.
Je vis dans le changement, vis dans la flexibilité. Et en fait, ça m'aide beaucoup à justement prendre des meilleures décisions pour le business. Après, je peux comprendre que certaines personnes ne sont pas forcément à l'aise. Et c'est là où l'enjeu du recrutement est difficile. Ouais. C'est de motiver des personnes à rester, à se prendre à l'aventure. Parce que c'est vrai que peut-être au bout de 6 mois, on ne sera plus là. Mais c'est le pari. C'est le pari. Parce qu'une chance sur 10, c'est à peu près ça. Les startups réussissent. Et c'est là où on peut devenir un simple salarié à peut-être remonter assez vite dans la boîte.
Ouais. Et là, vous parliez justement d'école de commerce, l'EM Lyon, qui n'avaient pas tous cette envie de start-up. En pourcentage, ça représente combien ceux qui sont en fin d'études comme ça? Ils sont plus attirés par quoi? Par des postes, des gros postes dans des grosses boîtes? Ou il y en a très peu qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat?
Je ne pourrais pas dire pour l'EM Lyon. Après, c'est vrai que... Bon, quelques profils avec qui on a discuté, ils avaient quand même l'air assez tournés start-up. Ouais. Mais par exemple, pour mes études, donc j'ai fait Imperial College à Londres. C'est vrai que dans mon master, par exemple, il y a peut-être seulement 20% qui sont allés dans le monde des start-up ou qui ont créé un truc.
Et le reste, c'était quoi, par exemple ?
Le reste est allé dans les grands groupes ou dans des grandes sociétés. Donc c'est vrai qu'au final, il y en a peu qui prennent le risque de créer des nouvelles boîtes.
Mais il y a un côté qui fait peur, en fait, qui peut effrayer.
Qui peut effrayer, et je pense qu'il y a aussi le côté confort, c'est que une fois qu'on s'installe dans une vie de professionnel, on aime bien son confort,
bien sûr.
Et on a du mal à se changer des habitudes. Et c'est vrai que la vie entrepreneur, ça fait partie de ça, ça fait partie de se challenger un peu.
Concilier la vie de famille aussi, la vie personnelle, c'est peut-être pas évident. Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous ?
Alors, je me suis posé la question pour plus tard. Je me suis dit, si jamais Vialytix ça réussit fort demain et qu'on est vraiment sur un développement accéléré, est-ce que ça veut dire que je vais travailler plus ? Est-ce que ça veut dire que je vais devoir vraiment m'investir à fond et du coup, moins voir ma fiancée, peut-être moins construire mes activités perso ? Nous, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une approche allemande où en Allemagne, la culture du travail est un peu différente de celle de France. C'est-à-dire que généralement, les horaires de travail, c'est entre 9h et 17h. Et ensuite, tout le monde favorise le temps personnel pour faire des activités ailleurs. Et c'est vrai que la start-up applique ça en Allemagne et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que les gens essaient d'être très efficaces pendant
les temps
très productifs pendant les temps de travail.
Mais après, les Allemands sont comme ça aussi. C'est des gens très carrés.
C'est une culture qui est comme ça.
Mais je
pense qu'en France, il faut aussi s'habituer à la culture ici.
Oui.
Il faut comprendre ce qui marche, parce qu'au final, mes employés seront français. Donc, il faut voir un peu comment adapter.
Qu'est-ce qui marche en France ?
Pour l'instant, c'est vrai qu'au début d'un développement, c'est difficile de se cadrer sur ce genre de questions, parce qu'on est un peu à course contre la montre.
Ouais.
Il faut qu'on se développe, il faut qu'on valide certains contrats pour... qu'on puisse se sécuriser pour les prochains mois.
Les observations viennent après, en fait.
Voilà, et ces observations, mais c'est vrai qu'en faisant un peu ces premières activités, on a une petite impression de comment peut-être cadrer les choses plus tard. Mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à peut-être travailler des plus longues heures, donc jusqu'à peut-être 18-19 heures, c'est ce que j'ai remarqué. Mais au final, on prend aussi le temps de bien déjeuner.
Oui. Très important, le déjeuner en France.
Très important. En plus, les terrasses viennent d'ouvrir, donc... Et c'est aussi une manière de faire du business, parce que c'est là où on rencontre peut-être clients, des partenariats. Donc, il faut aussi comprendre ça. Le temps dira.
Quel conseil vous donneriez à des futurs entrepreneurs qui aimeraient se lancer ou qui peut-être y pensent ? Juste, qu'est-ce qui est important pour vous ?
Alors, je pense que... clairement, j'ai pas assez d'expérience pour vraiment donner des conseils vraiment prescriptifs sur la question. Ce qui apparaît crucial, en tout cas, de ce que j'ai vu sur ce qu'on a fait depuis le début, c'est vraiment d'essayer. D'essayer et de pas, en fait, attendre d'avoir un truc parfait pour essayer.
Ouais.
Parce que souvent, c'est ce que font beaucoup de gens, ils ont peur de se lancer parce que c'est pas parfait, c'est pas nickel chrome. Moi, j'avais un client avant, quand je travaillais en consultant, qui me disait cette fameuse phrase « good is good enough ». Et j'aimais beaucoup, donc bien et assez, on n'a pas besoin de parfait. Ouais. Parce que si on pense à faire les choses parfaitement, ensuite ça va nous freiner, ça va prendre plus de temps, et ensuite on ne va pas avoir le temps en fait, d'accélérer, de vendre, de prouver que la solution marche. Donc ça c'est l'idée, c'est vraiment d'essayer, même si c'est brouillon, on essaye, on aura déjà une bonne idée si ça va marcher ou pas, pour tout type de produit hein, au final.
Ouais. Donc ne pas être perfectionniste, c'est important.
Voilà.
Il n'y a aucun, pour vous, start-upper qui est perfectionniste.
Alors, je pense que mes fondateurs allemands diraient peut-être quelque chose là-dessus, autre chose, parce que les Allemands sont connus pour leur rigueur et l'organisation. Mais c'est vrai que...
Au départ, on ne peut pas se permettre que tout soit parfait. C'est impossible.
On ne peut pas se permettre. Et on apprend avec le temps. Et il y a aussi voilà, tout un aspect, on va dire, commercial qui est important au début, si on veut vraiment se développer à l'avenir. Et il faut vraiment mettre l'appui là-dessus.
D'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite de vous développer en France hein, via Lytix. Je rappelle, Francesco Papa, que vous êtes chargé du développement en France hein, depuis cette année. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Objectif Startup. En attendant, ce podcast est à retrouver sur votre application Cowork La Radio et sur toutes vos plateformes préférées de téléchargement.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.